Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le Tour de France, c'est très simple. C'est une course de vélo, chaque jour, pour 21 étapes. Tu peux être éliminé très très rapidement.
Il faudra aller au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur. Sur ce tour, on a l'impression de passer d'un scandale à un autre.
Tu penses qu'il est, c'est potentiellement dopé ou pas?
Everything that light touches is Tadej's kingdom. We're just the best.
Hey!
Ouais, chute dans le peloton!
C'est clair que ça va piquer, ça va faire très mal. Hein.
Vous êtes des soldats, vous êtes des guerriers.
We're cyclists. You always keep pushing and pedaling.
Eh oui, du show, du spectacle, trois petits tours et puis s'en va cette année sur le Tour de France. Il n'y aura plus les caméras de Netflix. La plateforme américaine a décidé d'arrêter sa série au cœur du peloton alors que la troisième saison est sortie il y a quelques jours. C'est vrai que les audiences de la deuxième saison ont été jugées moyennes en interne. Peut-être une forme de lassitude alors que Tadej Pogacar écrase la concurrence. Vous allez entendre ce qu'en pensent les coureurs dans quelques instants. Mais la musique qui fout les jetons est cette question. Netflix qui quitte le tour. Est-ce que c'est un bien ou un mal pour le vélo? Simon Dutin.
Je trouve que c'est plutôt un mal.
Plutôt un mal. Fred Le Canu.
La question est compliquée tournée comme ça, mais je vais dire bien. C'est plutôt bien du coup.
Ok, c'est plutôt bien. David Douillet.
C'est n'importe quoi, Fred. Bien sûr que c'est un mal.
À nous stigmatiser.
Julien Benneteau.
Sur ce plateau. Pas te blairer en fait. Ouais, mais... c'est incroyable.
Je vais écouter les opinions de mes trois acolytes.
Pourquoi?
Parce que j'ai pas vu une seule seconde des trois saisons.
Attendez, on va retirer la pige de Julien Benneteau. Je le marque juste.
Regarde, c'est top.
Maintenant, c'est fou parce que c'est même plus la question qui dérange, c'est le débat qui dérange, tout simplement. Bravo, merci Julien pour ma dernière. Heureusement, Christophe Cessieu est avec nous ce matin. Salut Christophe.
Bonjour les garçons.
Salut Chris. Comment ça
va? Salut l'ancien.
Mais oui, on est très heureux d'être avec toi, évidemment. Oui, c'est pas bien de dire ça. C'est pas un ancien, Christophe. Il est tout jeune. Hein, Christophe? Alors, c'est un mal ou un bien pour le vélo?
C'est évidemment un mal. C'est terrible.
Un mal.
Voilà.
Alors, ok. On va débattre dans quelques instants. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur le Tour de France. C'est Nicolas Pelletier. Salut, Nicolas.
Salut les amis. Salut à tous. Salut, Nico.
Alors, tu as mené l'enquête et certaines équipes ne sont pas forcément mécontentes de cet arrêt.
Oui, après trois saisons, les caméras de Netflix ont lâché les pédales des coureurs. Une série qui a souvent fait parler dans le peloton. Par exemple, cette saison, les amateurs de la série, on peut découvrir l'embrouille Pogacar, Evenepoel, Vingegaard sur l'étape des Chemins Blancs la saison passée. Le Slovène évoque la tension régulière dans le peloton.
Dans tous les sports, tu dis des choses que tu peux regretter. C'est ce qui nous vient sur le moment. Quand le peloton est tendu, certains crient de frustration, ça arrive. Il y a eu beaucoup de tensions ces dernières années entre UAE et Visma. Quand tu es concurrent, il y a toujours des tensions. Il y a un gros respect entre nous. Se féliciter à la fin de l'étape, peu importe ce qu'il se passe, c'est la beauté du sport.
La difficulté de redoubler les histoires à l'intérieur du peloton est l'un des arguments pour arrêter la série après trois saisons. Un regret pour Grishan Yerman, le directeur sportif de Jonas Vingegaard.
C'est une bonne série pour ceux qui ne connaissent pas le cyclisme. Il y a beaucoup de choses sorties de leur contexte, mais j'ai aimé la regarder.
Et puis, sur cette dernière saison, un directeur général crève l'écran. Dominique Serres, le patron de Decathlon à G2R La Mondiale, apparaît par son ambition assumée, avec un style très cash qui tranche avec un Vincent Lavenu plus en retrait. Sauf que Dominique Serres n'a pas vu la série, mais de nombreuses personnes lui ont réalisé un retour. Il n'a pas du tout apprécié le montage.
Ça ne me correspond pas, parce que je ne suis pas comme ça. Ce ne sont pas mes valeurs. C'est scénarisé, c'est monté. Je sais réellement les interviews et les images qu'on a pu faire. Après, voilà, c'est Netflix, donc il faut l'accepter. Pendant le tour, l'année dernière, pour vous donner un exemple, je suis venu aux étapes de repos et dans quelques étapes, les moments où je suis intervenu auprès des coureurs, auprès de l'équipe, toujours j'ai apporté une bienveillance et jamais j'ai mis une pression, on va dire, exacerbée. On peut faire dire un petit peu ce qu'on veut quand on regroupe des questions ou apparemment de certains de mes sourires, mais mes sourires n'étaient pas appropriés apparemment au constat de la question.
Et pour terminer, Netflix versait des centaines de milliers d'euros à ASO, l'organisateur du Tour de France, et aux équipes qui jouaient le jeu d'ouvrir leurs portes, autour de 50 000 euros par équipe.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ce reportage auprès de Netflix, évidemment, qui donc arrête ce Tour de France et les coureurs. Vous l'avez vu, hein, notamment ce directeur sportif qui est plutôt très heureux. Pourquoi c'est un mal ? Christophe Session, on commence avec toi, évidemment, vous pouvez réagir au 32-16.
Bah parce que c'était une formidable case de résonance pour le cyclisme. Quand une plateforme telle que Netflix s'intéresse au vélo, eh bien ça permet justement à des personnes qui ne se sont jamais intéressées à ce sport de découvrir en quoi il est génial, de découvrir comment fonctionne le Tour de France, comment fonctionnent les équipes, les différentes personnalités. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la Formule 1. Drive to Survive a été un formidable catalyseur pour la Formule 1 qui a retrouvé une nouvelle jeunesse et qui a intéressé des gens qui n'en avaient rien à faire de la course automobile. Et malheureusement, avec le cyclisme, ça a été un succès, mais pas un succès aussi probant que ça a été avec la Formule 1, notamment l'année dernière, par exemple, où les audiences de la série sur le Tour de France ont été pas très bonne sur la France, notamment, parce que les Français connaissent bien le vélo, ouais. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique et qu'on leur montre des trucs trop scénarisés, eux, ils adorent le Tour de France, et c'était peut-être pas vraiment leur tasse de thé. Mais pour les autres pays, ça a permis des choses incroyables, et puis pour les coureurs, pour les équipes, ça permet aussi d'aller chercher des sponsors, ça permet de montrer que le vélo n'est pas un sport ringard, comme beaucoup peuvent le penser, et donc je trouve que c'est vraiment très dommage que ça s'arrête là. Netflix ne fait pas de cadeau, malgré le formidable travail qui a été réalisé par les équipes de production, notamment Quad qui a bossé sur la fabrication de ces trois saisons. Donc pour moi c'est vraiment pas une bonne nouvelle adressée au cyclisme.
Tu nous raconteras, Christophe, dans quelques instants ton expérience avec Netflix, parce que s'il y avait eu une autre saison, eh bien tu aurais pu être l'un des personnages de cette saison, dont tu nous raconteras comment ça s'est passé. Ah ben oui, c'est comme ça.
Dans ces cas-là, je vais répondre. Si j'avais eu cette information, j'aurais dit c'est un vrai mal pour le cyclisme.
Mais
Netflix, ça n'a pas de prix.
Je suis d'accord. Fred, pourquoi t'es pas d'accord ?
Bah moi je pense pas, et vu ce que j'entends et vu les retours, ça me conforte dans ma position, c'est qu'à un moment donné le spectacle, il est sur le vélo. C'est-à-dire que l'objectif de nos métiers à nous, c'est de partager des informations, pas des émotions. Et à partir du moment où tu ouvres des caméras comme ça derrière, bah ça me fait exactement penser aux réseaux sociaux où les gens aujourd'hui sont en représentation, c'est-à-dire qu'ils sont dans une image artificielle parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, parce qu'il y a un storytelling, parce qu'il faut montrer quelque chose, et du coup il y a une déviance par rapport à la réalité. T'as quand même une arrière-cuisine, t'as quelque chose qui s'appelle le vestiaire, t'as quelque chose qui s'appelle le cadre du privé. Je peux dire quelque chose à Julien en privé. Et si c'est remontré devant tout le monde, je vais passer pour peut-être quelqu'un d'arrogant, parce que les gens connaissent pas notre relation. Peut-être qu'ils vont dire que mon propos il est pas approprié. C'est-à-dire qu'il y a plus de privé.
À un moment donné,
moi ce que j'ai adoré avec toi, Christophe, c'est que tu m'as expliqué le vélo. Tu m'as pas expliqué que les mecs, pourquoi ils s'engueulent, pourquoi machin, il n'y a pas de storytelling. Moi, ce que j'aime, c'est de savoir ce qu'on disait tout à l'heure sur la dichotomie entre l'individu et le collectif, et de savoir que Pogacar et tout, il y a des équipes derrière, c'est pas que des histoires d'hommes, c'est ça qui m'intéresse. Après, pourquoi ils s'engueulent, pourquoi machin, non.
Fred, aujourd'hui, malheureusement, tu le sais bien, les sportifs de haut niveau ne s'adressent quasiment plus à la presse, ou alors ils le font de manière très, très, très frileuse, si tu veux. Ou alors ils le font sur les réseaux sociaux. Et là, c'était quand même le moyen de découvrir la véritable personnalité de ces mecs-là, même si c'est un peu scénarisé et qu'ils savent qu'il y a une caméra. Mais les caméras arrivaient quand même à se cacher et arrivaient à sortir des choses qu'on n'arrivait pas à voir. Aujourd'hui, dans une interview, qu'est-ce que tu vas trouver dans une interview d'un sportif de haut niveau ? Il n'y a plus rien, quasiment plus rien. Et ça, c'était justement une manière de découvrir un peu les personnalités de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, tu ne les as plus lorsqu'ils te donnent une interview à la radio, à la télé ou dans la presse écrite. C'est très rare. Pour arriver à avoir un peu de vérité, c'est compliqué. Et donc, ça nous permettait, aux spectateurs, enfin, Christophe, voir un autre biais.
Le patron de Décathlon, il t'explique que le personnage qu'il a vu, il le connaît pas. Donc moi j'entends ce que tu dis.
Je veux bien entendre ce que dit Dominique Serrias, mais il faudrait que tu viennes rencontrer le personnage et que tu en parles aussi avec les gens qui l'entourent.
Je le connais pas, mais par contre ce que je sais, c'est que sur ce type de reportage, il faut faire à fond la forme du reportage.
Même pour mais on sait très bien qu'on crée des bons, crée des méchants.
Dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on veut savoir, c'est le vélo. Si tu crées des besoins, t'as pas besoin de créer des bons, des méchants.
Tu l'as regardé la série sur la Formule 1. Tu l'as regardé.
Elle n'existe plus d'ailleurs.
Mais bien sûr qu'elle existe.
C'est laquelle qui n'existe plus alors. Il y en a une autre qui n'existe plus parce que c'était trop romancé.
J'allais y venir. Allez-y.
Voilà, donc ça n'a pas d'aboutissement.
Ok, juste je reprends pour que ce soit un peu plus compréhensible. David Douillet n'était pas d'accord avec Fred Le Canut, ça m'étonne.
Ouais, non. Moi, ce qui m'intéresse dans ces séries, que ce soit la F1 ou le vélo, c'est justement de s'attacher aux acteurs, aux principaux acteurs. Très franchement, les états d'âme d'un patron d'écurie, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les voir juste après une arrivée, de voir le plan qui avait été mis en place avant, et ça a marché, ça a pas marché, ce qui s'est passé, etc. Et d'avoir cette fraîcheur qu'on... Et je suis d'accord avec Christophe qu'on ne retrouve plus du tout dans les interviews classiques. La F1 aujourd'hui, quand tu regardes la F1, mais c'est à pleurer. Ils disent tous la même chose. Oui, nous, d'abord, ils parlent à la troisième personne. Nous avons une voiture qui est ceci, qui est cela. Nous travaillons dessus, etc. Ils disent tous la même chose. Ça ne sert strictement à rien. Des séries comme où tu rentres un peu dans l'intimité d'un pilote, d'ailleurs. Quand t'es à peu près intelligent, tu délivres ce que t'as envie de délivrer, hein, même quand t'as une caméra en face de toi. Mais malgré tout, tu pouvais lire quelque chose de supplémentaire à l'action, justement.
Et peut-être de sincère.
Et de sincère, absolument, et de frais. Et c'est tout ce qui est important dans ce type de documentaire. C'est de retrouver les coulisses, cette fraîcheur des coulisses. En y mettant des garde-fous, évidemment, mais en y parce qu'après, tu t'attaches au personnage. Et sur les compétitions à venir, tu te dis, tu sais comment le type raisonne, tu sais comment le type fonctionne, etc. Et tu as une autre lecture de ce qui se passe, effectivement, dans l'action sportive pure et dure. Et ça, c'est ce qui rend le truc attachant. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'équipe de France féminine. On a besoin de personnalités avec lesquelles tu t'attaches pour retrouver quelque chose de plus attrayant dans les faits de la compétition.
Simon Dutin.
Moi, je suis quasiment d'accord avec tout ce qu'a dit Christophe Cessieux. Alors, ça m'ennuie un peu, comme tu le sais, mais bon, pour ta dernière, l'amour l'emporte, évidemment. Évidemment, je suis content de constater que ceux qui pensent que c'est un bien pour le vélo autour de cette table sont ceux qui n'ont pas vu la série, qui n'ont pas regardé une seule seconde d'aucun épisode. Moi, j'ai suffisamment souffert des clichés sur le cyclisme, un sport de beauf, un sport de mecs qui font la sieste, pour les mecs qui font la sieste devant la télé. Moi, je trouve qu'en effet, ça contribue, et je l'ai constaté autour de moi, parce que j'ai eu l'occasion d'en partager quelques moments avec ma compagne, qui évidemment vraiment s'en fiche complètement du Tour de France. Elle a trouvé ça formidable. Tu parlais des moyens de prod, tu disais Fred, bon, c'est on veut voir le vélo. Moi, je sais pas comment ils ont fait. Il y a des images ce qu'on appelle de caméras embarquées sur certains vélos qui donnent des images ultra spectaculaires qui permettent aux gens de se rendre compte que c'est un peu plus que des mecs qui appuient très fort sur les pédales. Ça va extrêmement vite. C'est extrêmement risqué. C'est ultra spectaculaire. Et en effet, comme Christophe l'a dit, on se rend compte que même lorsque tu n'étais pas à la lutte pour la victoire, il y a des histoires dans l'histoire. Il y a des rivalités. Il se passe des choses. Il y a des choses à raconter que tu ne peux pas retranscrire avec la façon dont les étapes et dont la course est produite par le diffuseur. Et c'est sans faire injure au diffuseur qui fait bien ce qu'il peut, ce qu'il veut et qui propose aux téléspectateurs. C'est une autre expérience. Je pense que ça plaît à des gens qui spontanément ne sont pas attirés par la course en direct. Et ça permet de retranscrire, alors que ça plaise ou pas au patron de Décathlon, une forme d'humanité, voilà. Je pense qu'il est un petit peu hypocrite, notre ami Sérieux, parce que c'est bien lui qui parle à la caméra, c'est bien lui qui s'adresse à ses coureurs, oui. C'est bien lui qui a eu la peau de Vincent Lavenue. Au bout d'un moment, faut assumer. Et je pense que, en plus, il a l'honnêteté de dire, ah, j'ai pas regardé la série. Ah ben, commence par regarder et dis-nous si c'est bien toi qui s'adresse aux coureurs. Dis-nous si c'est bien toi qui exerce les fonctions que tu exerces. Moi, je trouve que c'est un petit peu hypocrite. Et il y a eu la Formule 1 qui a permis encore une fois de rebooster l'intérêt. J'y sais, il y a eu le golf, c'est pareil. Le sport de beauf, le sport de riche, le sport de mecs qui ont aucune histoire à raconter. Regardez un épisode de Full Swing sur Netflix, vous rendrez compte que les mecs dont on parle, c'est aussi des gars qui ont des rivalités, qui ont du caractère. Il se passe des choses. Ouais, je pense que ça contribue justement à pimenter l'intérêt pour des sports qui sont injustement traités sports ringards ou un petit peu ennuyeux.
Avant la réponse de Fred, on a encore beaucoup de choses. Il y a aussi Jonathan qui nous appelle au 32-16. Un mot quand même, Julien.
En fait, j'ai regardé quelques épisodes de la première saison et je trouvais que, pour le coup, c'était, un peu sur le même modèle que la Formule 1.
Alors, c'est exactement la même.
Tout à, voilà. Tout à fait.
Alors que Full Swing et que Breakpoint pour le tennis, c'est pas complètement le même modèle. On a beaucoup de trucs sur la vie privée avec les compagnes des joueurs, etc. On a moins le comment dire, dans le tennis c'est pareil. On a moins le truc.
On monte moins les rivalités, c'est ce que tu veux
les
dire.
Les rivalités, les enjeux, comme on peut voir sur la Formule 1 ou dans le cyclisme, l'aspect tactique, l'aspect tout ce qui comporte. Et je trouve que sur le tennis et le golf, Netflix se perd. Des à côté
dans du bling bling.
Ouais, exactement. Donc pour le vélo et pour le Tour de France, je pense que oui, effectivement, je rejoins Simon et David et Christophe que c'est un mal parce que ça peut faire découvrir, comme ils l'ont dit, le vélo sous notre forme à des gens non initiés. Et puis voilà les stratégies, le briefing d'avant une étape.
C'est ce qui nous manque sur le tour, clairement.
Mais, bah oui.
Un Wout van Aert qui est dégoûté d'avoir laissé la victoire d'étape,
les trucs comme ça
qu'on nous présente comme froid, qui se livre et qui devient sympathique, un Pogacar qui est d'une placidité incroyable et on rentre aussi dans son intimité, on voit le rôle que sa compagne peut avoir sur les décisions, sur la façon dont il gère sa frustration, ses déceptions, encore une fois la façon dont les directeurs sportifs s'adressent à leurs gars avant, après une étape. Moi je trouve ça fascinant,
c'est
fascinant.
Bien. Mais Simon, moi, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Là où moi, je mets une alerte sur le truc, c'est que, la malchance du vélo, c'est qu'il n'y a pas d'image clé, hormis des chutes, hormis des choses comme ça, pour expliquer la victoire. C'est très dur d'avoir, pour le grand public, tu parles de golf, tu parles de tennis, tu parles de judo, tu vas avoir des coups, des hippons. Le vélo, c'est très dur d'avoir sur un format TikTok aujourd'hui ou un truc en 30 secondes qui te résume le truc tellement c'est complexe. Donc, qu'il y ait de l'inside, oui. Et que ça soit un documentaire, oui. Et je te rejoins complètement. Des caméras embarquées, vive le truc des joueurs, tout ça, il n'y a pas de problème. Là où ça me gêne, c'est le storytelling. Là où ça me gêne, c'est
la scénarisation de temps en temps.
C'est l'instrumentalisation de l'émotion parce que ce n'est plus la vérité.
Mais certaines écuries de Formule 1 n'étaient pas très contentes de ces rivalités, de ces passages mis un peu à l'envers. Alors que ça avait été...
Les yeux dans les bleus, les yeux dans les bleus.
Oui, t'as raison.
Du truc, les yeux dans les bleus. Tu mets une caméra, t'es à l'intérieur. C'est
précurseur, exactement. Jonathan est avec nous au 32-16. Bonjour Jonathan.
Bonjour à tous.
Salut Jonathan.
Bon, un mal ou un bien pour le vélo, Alain ?
Eh bien écoutez, alors, pour le vélo, pour moi c'est forcément un mal. Moi je suis d'accord avec vous sur les débats sur la forme, il n'y a aucun souci, on pouvait faire mieux. Moi je suis un expert, mais bon j'ai vécu dedans et je connais très bien. Et effectivement, ces reportages ça m'a un petit peu dérangé. C'est très bien fait, c'est très cinématographique, si ça se dit, je sais pas, excusez-moi. Enfin, c'est très visuel. Et par contre, il y a une grosse partie qui est très romancée. Il y a parfois des rivalités qui sont un petit peu inventées. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, nous, le vélo, on est un sport à l'ancienne. Il y a des gros débats depuis 10 ans sur les gros sponsors qui ne retrouvent pas leur argent parce qu'ils mettent beaucoup d'argent, mais sauf que les fonds ne sont pas redistribués comme au foot avec les droits télé ou avec le rugby, par exemple. Et là, on a quand même un acteur majeur, Netflix, qui fait c'est un très beau travail. En tout cas, au niveau, vous qui êtes dans les médias, au niveau médias, c'est un très, très gros travail. Et ça a amené beaucoup, beaucoup de gens, un nouveau public, vers notre sport. Et quand on voit l'équipe Arkea qui va disparaître avec des très gros coureurs pourtant, quand on voit Jérôme Pinot les difficultés qu'il a vues pour faire son équipe, quand on voit le cyclisme, il va y avoir une grosse, grosse crise dans le cyclisme. Hein. Il reste 3-4 sponsors qui tiennent, des gros mastodontes. Après, derrière, c'est la misère.
Voire des états, pour certaines écuries. Reste avec nous, Jonathan. Christophe, parle-nous de ton expérience, ton casting avec Netflix. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti déjà ces ficelles dès le casting?
Les ficelles peut-être, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que Netflix vient filmer dans le camion RMC depuis pendant 3 ans. Ils nous ont filmé, donc ils venaient un peu participer à nos débats et ils trouvaient que le ton était sympa. Et donc à la fin du tour l'année dernière, ils m'ont contacté, le directeur de prendre m'a contacté pour venir faire un essai. Donc j'ai été faire un essai j'étais un peu impressionné quand même, parce que tu te retrouves face à un réalisateur, 3 assistants, directeur de prod, t'es dans le noir et tout ça, et on te fait parler un peu du cyclisme en général et des sujets qu'ils veulent aborder. Malheureusement, a priori, j'étais un peu trop vieux pour eux, et puis j'étais pas un ancien coureur cycliste, donc ils ont préféré prendre Johan Ofredo, qui pour moi, enfin je sais pas, mais c'est pas une grande réussite non plus d'après ce que j'ai vu dans la 3e saison. Bon, mais ça c'est comme ça, il y a des choix qui doivent être faits. Après, mais tu sens dès le départ,
jaloux,
à la sortie.
Non, je suis désolé,
on a quand même le droit, tu as raison de souligner que les consultants que Netflix a utilisé,
a mis en avant,
mais il y en a des Français, il y en a des pour des télévisions étrangères, et moi c'est leurs interventions que je trouve très scénarisées, c'est très écrit, ils récitent un texte, ça manque de spontanéité, je trouve.
Ah oui, oui, et oui. C'est moins Alexandre Pasteur, qui est le commentateur de France Télévisions, est obligé, après le tour, de réenregistrer les moments où il dit ah bah oui, attaque de Pogacar, et ça manque complètement de spontanéité. Le problème, c'est qu'il faut il faudrait autrement aller le chercher au moment où il le dit, et c'est pas toujours évident, mais tout n'est pas scénarisé, mais c'est vrai qu'une partie quand même, parce que de toute façon les interventions des consultants sont faites après la course, et on a l'impression qu'elles sont faites avant ou pendant la course, donc ça aussi il y a ce côté un peu scénarisé. On te demande de parler de Binyam Girmay alors que tu sais qu'il a gagné 3 étapes, mais on te demande de le faire comme s'il était avant le départ du Tour de France. Donc il y a ce côté-là, effectivement, un peu scénarisé. Mais voilà, bon, c'était une expérience sympathique. Mais malheureusement, je pense que j'ai trop de cheveux blancs pour faire ce genre.
Nous, on t'aurait choisi. Voilà, parce que tu es une grande gueule, et on t'aurait choisi, mon cher Christophe. Et on t'aurait donné beaucoup d'argent même pour le faire. Et pour partir des GG.
Oui, surtout ça. Des études pour que tu t'en ailles, mon vieux.
Mais non, mon Christophe.
Ça aurait été du net fric.
Bon, évidemment.
Ce qui est marrant, c'est que le Grisha Neerman, il est très content de lui, alors que notamment dans la saison 2, il y a des passages de lui inside dans la voiture de la Visma qui sont, je trouve, catastrophiques pour son image.
Mais tu connais bien l'adage, et qu'on parle de toi en mal, oui, ou qu'on parle de toi en bien, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Et le cyclisme, Neerman a compris comment ça fonctionnait. Donc voilà, et pour le cyclisme, on en parle un peu plus que la retransmission en direct, que visiter les châteaux et les lacs de France. Là, c'était une autre façon de voir le vélo, et je trouve ça dommage que ça s'arrête. Voilà.
Christophe, on te retrouve à partir de 13h dans l'intégral tour, évidemment, durant 3 semaines. On va se régaler à t'écouter. Vous avez démarré fort, les copains. Je vous ai écouté hier après-midi.
Je reviens dans un petit quart d'heure quand même, là. Qu'est-ce que tu crois, là? Tu crois que tu vas t'en aller comme ça sans que j'ai un mot à dire?
Ah oui. Hein? Ah bah moi aussi, j'ai un petit mot à te dire. Alors reviens bien. Reviens dans 15 minutes, mon cher Christophe. Mais ne manquez pas, c'est plus important. C'est à partir de 13h à l'intégral tour avec Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, Maria Azé et tous nos envoyés spéciaux.